RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. On débutera avec le nouveau patron de la BAD, la Banque Africaine de Développement. Il est économiste de formation, il a 60 ans et vient de Mauritanie. C'est Sidi Ould Tah qui a été élu hier à Abidjan. Les premières consultations de Joseph Kabila de retour dans l'est de la RDC. À Goma, il a rencontré des représentants de confessions religieuses. La RDC ou l'Assemblée nationale autorise l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il est soupçonné de tentative de détournement de fonds. La pression djihadiste qui s'accentue à nouveau dans le nord du Mozambique. Le groupe État islamique revendique 2 attaques. De la musique pour s'ambiancer un petit peu en ce vendredi matin. La rumba congolaise sera à l'honneur ce soir avec un concert unique à l'Institut français de Kinshasa. Et c'est le célèbre Dissi Mandjiku qui sera à l'œuvre. Ancien ministre de l'économie de Mauritanie, Sidi Ould Tah succède donc au Nigérian Akinwumi Adesina et devient le nouveau président de la Banque africaine de développement. Il a été élu hier à Abidjan en marge de l'assemblée annuelle de l'institution. Sans plus tarder, sur place, on retrouve le compte-rendu d'Abdoulaziz Diallo.
Des cris de joie, des applaudissements. La délégation mauritanienne célèbre l'élection de Sidi Ould Tah. L'économiste de 60 ans l'emporte au troisième tour avec plus de 76% des voix des pays africains et 72% des non-régionaux. Ancien ministre de l'économie, il devient le 9e président de la BAD pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ému, il s'adresse à ses pairs.
Je vous remercie, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagne.
Sidi Ould Tah connaît bien le développement africain. Pendant 10 ans, il a dirigé la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Parmi les soutiens de sa candidature, la Côte d'Ivoire. La ministre de l'économie, Nialé Kaba, salue un profil expérimenté.
Il a la particularité d'avoir occupé les postes de ceux qui sont ses clients, c'est-à-dire nous les ministres qui avons besoin de la banque pour accompagner les actions du gouvernement. Il a développé une expertise à nous écouter et à s'adapter à nos besoins.
Sidi Ould Tah prendra officiellement ses fonctions d'ici 3 mois, dans un contexte économique incertain. Les États-Unis envisagent de retirer 500 millions de dollars de leur contribution au fonds de la BAD, destiné aux pays les plus pauvres du continent. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
De retour dans l'est de la RDC, la première image de Joseph Kabila à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. L'ex-président y a entamé ses consultations quelques jours après la fin de son exil. Hier, il a en effet reçu dans l'une de ses résidences des représentants des confessions religieuses. Alors que peut-on retenir de cet échange? Élément de réponse ce matin sur RFI avec Passion Ligodi.
C'est à Kinyogoté, au bord du lac Kivu, à l'ouest de Goma, dans l'une de ses résidences, que Joseph Kabila a reçu les religieux. Tête rasée, moustache soignée, costume sombre, l'ancien président s'est montré peu bavard, fidèle à son habitude. Pendant environ 50 minutes, il a échangé avec ses invités, musulmans, membres des églises de réveil, représentants de l'armée du salut, orthodoxes, protestants et d'autres encore. Pasteur Joël Amourani, président de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, a conduit la délégation.
L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays.
Selon le pasteur Joël Amourani, Joseph Kabila n'a pas dit qu'il prenait la tête d'une lutte armée. Les religieux lui ont même proposé un rôle plus neutre.
Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que nul n'ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même talent existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir.
D'après l'équipe de Joseph Kabila, d'autres consultations sont prévues dès ce vendredi. Une feuille de route sera établie pour la suite et une conférence de presse est également annoncée.
Passion Ligodi, la RDC ou l'Assemblée nationale autorise par ailleurs l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministre de la Justice Constant Mutamba. Décision prise en plénière hier sur sollicitation du procureur général qui soupçonne Constant Mutamba de tentative de détournement de fonds. Cela dans le cadre d'un projet de construction de prison à Kisangani évalué à quelque 39 millions de dollars et pour lequel 20 millions ont déjà été décaissés sans l'aval de la primature. Une commission spéciale et temporaire a ainsi été mise en place la semaine dernière à l'Assemblée. Elle a rendu finalement son rapport hier, avant que les parlementaires ne donnent leur feu vert à la justice. À Kinshasa, correspondance de Pauline Azidi.
Les élus estiment que les faits suspectés sont graves et qu'il faut laisser la justice poursuivre son travail. Pour rappel, la commission a auditionné mardi pendant 6 heures le procureur général et pendant 5 heures le ministre de la Justice. Le procureur est revenu sur ses accusations, sur ses interrogations par rapport à ce marché passé de gré à gré et ce virement de 19 millions de dollars à la société Zion Construction, des fonds qui ne viennent pas du trésor public mais du Frivao, un établissement chargé de gérer les 325 millions de dollars dus par l'Ouganda à la RDC, un fonds sous tutelle du ministre de la Justice. Pour sa défense, Constant Mutamba a reconnu des erreurs et a demandé pardon, mais il a surtout insisté sur ce qu'il estime être un règlement de compte. Il a aussi évoqué ses relations difficiles avec la première ministre Judith Suminwa, un climat de travail propice au conflit, selon lui, des propos qui fragilisent sa place au gouvernement. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
La RDC, où un autre homme politique est également dans le viseur de la justice, le député Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, visé par une enquête pour propagation de fausses rumeurs et divulgation de secrets d'État. En cause, une interview début mai dans laquelle il dénonçait une gabegie financière, affirmant en substance que l'argent destiné au projet arrivait bel et bien, mais qu'il était ensuite partagé. Une commission d'enquête a été mise en place là aussi et devrait rendre son rapport la semaine prochaine. Au Sénégal, l'ancien député maire de Dakar, Barthélémy Diass, lance son propre mouvement politique. Sénégal Biniou-Bok, en français le Sénégal que nous partageons. Il veut rassembler les déçus de la politique actuelle. Barthélémy Diass marque ainsi son entrée solo sur la scène politique après des années de compagnonnage avec son mentor Khalifa Sall. Et pendant ce temps, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est quant à lui arrivé hier en Côte d'Ivoire pour une visite de travail et d'amitié de 3 jours. Il a été accueilli par son homologue ivoirien, le premier ministre Robert Begré Mambé, avec lequel un entretien est prévu dans la matinée avant une conférence de presse. La pression djihadiste à présent qui s'accentue à nouveau sur le nord du Mozambique. La menace du groupe État islamique plane à nouveau. Il a revendiqué hier 2 attaques contre les forces armées mozambicaines dans la région septentrionale du Cabo Delgado. Le bilan s'élèverait à 30 victimes chez les soldats. Et on le voit depuis le début du mois de mai, Gaël Lalex, les terroristes multiplient les incursions et ils s'en vantent aujourd'hui sur Internet.
Sur leurs réseaux sociaux, les terroristes arborent fièrement leur butin. Des mitraillettes, des mortiers, des munitions, des lampes solaires, toute une armurerie. Mardi, les djihadistes ont attaqué un campement militaire à Makomiya, à près de 200 km au nord de Pemba, capitale du Cabo Delgado. Ils revendiquent la mort d'une dizaine de soldats. Cet assaut intervient un peu après l'attaque d'un avant-poste militaire à Mouidoumbe, où 11 soldats ont également péri. Les autorités mozambicaines, quant à elles, ne communiquent pas sur ces récents revers. La situation s'est nettement dégradée dans le Cabo Delgado depuis le début du mois et l'annonce par Total de la reprise de ses projets pétroliers. Les hommes armés ont mené une attaque dans la réserve de Niassa, tuant 2 rangers. 3 soldats rwandais ont également péri dans une embuscade peu après. Dans un rapport publié cette semaine, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies s'inquiète de voir l'insécurité toucher des districts autrefois considérés stables. Ceux d'Ankouabé et de Montepouèche ont enregistré 20 000 déplacés supplémentaires en quelques semaines. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
La guerre au Soudan qui se poursuit. Les paramilitaires des forces de soutien rapide revendiquent notamment des avancées face à l'armée enregistrées au Kordofan. Et dans ce contexte de guerre, notons également cette épidémie de choléra qui a fait au moins 70 morts en l'espace de 2 jours dans la capitale Khartoum. Ce très lourd bilan au Nigeria également, plus de 10 000 personnes tuées en l'espace de 2 ans, c'est le constat dressé par Amnesty International dans un rapport publié hier, exactement 2 ans après l'arrivée au pouvoir de Bola Tinubu. Et dans cette situation sécuritaire dégradée, 2 États du centre du pays concentrent la majorité des victimes, plus de 6 800 morts dans l'état de Benue et plus de 2 600 dans celui du plateau. Le temps des hommages hier au Gabon, un mois et demi après le décès du footballeur Aaron Boupenza, mort à 28 ans dans la chute du 11e étage de son immeuble en Chine où il évoluait. Un hommage national lui était rendu hier au pays, cérémonie organisée au Palais des Sports de Libreville pour celui qui a porté à 35 reprises le maillot de la sélection nationale. Il sera inhumé aujourd'hui, Aaron Boupenza, dans un mausolée privé près du stade de l'Amitié de Libreville. Allez, on parle tennis également ce matin sur la Radio du Monde, car aujourd'hui c'est le début à Roland-Garros du troisième tour dans le tableau féminin. Et c'est synonyme de suite de parcours pour Victoria Mboko. Et c'est son premier grand chelem d'ailleurs, la Canadienne d'origine congolaise. Elle va pouvoir juger ses limites face à la tête de série numéro 8, Qingwen Zheng. La joueuse de 18 ans mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend.
C'est une joueuse du top 10. C'est déjà un grand défi en soi. Elle a battu tant de grandes joueuses. C'est aussi une athlète incroyable. Je m'attends à un grand combat. Je donnerai tout face à elle. Ce sera vraiment une bataille difficile pour moi. Je n'aime pas me mettre trop la pression par rapport aux matchs qui m'attendent. La seule chose qui est sûre, c'est que ce sera un match très difficile. Évidemment, ça sera éreintant. Il faudra que je gagne mes points en tenant sur la longueur dans les échanges et en sortant mon meilleur tennis. Voilà ce à quoi je m'attends.
Les premiers échanges entre Victoria Mboko et Qingwen Zheng à partir de 9h en temps universel. Allez, de quoi s'ambiancer un peu au son de la rumba congolaise avec l'un de ses ambassadeurs les plus fameux qui sera en concert ce soir à l'Institut français de Kinshasa. Représentation unique pour Ditsi Manjeku, l'ancien chef d'orchestre du mythique hockey jazz de Franco Luombo. Aurélie Bazara Kibangula a suivi les préparatifs.
Guitare en main, Dizzy Manjeku fait résonner les notes des classiques de la rumba congolaise. Légende vivante du soukou, s'il prépare son retour sur scène, 8 ans qu'il n'avait pas joué à Kinshasa.
Pour moi, c'est me ressourcer. C'est le pays où je suis né. Pour que je sois dans le monde, il y a toujours Kinshasa dans ma tête.
C'est important pour vous de répéter les classiques de la rumba congolaise?
Ça peut être du zaïko, ça peut être du lokeja, ça peut être du taboulé. Je fais hommage à tous ces héros de la rumba congolaise moderne. Donc perpétuer la rumba, quoi, donc, dans laquelle j'ai grandi, c'est le patrimoine de tout Congolais.
À 79 ans, Dizzy Manjeku n'a rien perdu de sa virtuosité. En témoigne l'artiste Niboma, son compagnon de route.
Vraiment avec son âge, avoir ce talent-là, vraiment c'est formidable. Venir au pays, faire la musique ensemble avec les grands frères, ça m'a fait une émotion.
Un retour sur scène qui signe des retrouvailles entre amis, tous musiciens et compositeurs ayant participé à faire de la rumba la référence de la musique congolaise. Aurélie Bazara Kibangula, Kinshasa, RFI.
Ditsi Manjeku, qui est l'un des plus grands ambassadeurs de la rumba congolaise, on l'a compris pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Il a joué avec des géants comme Papa Wembe, il a notamment séduit le Belge Stromae, avec qui il a composé la musique du tube Papa Outé. Il a donc porté la musique congolaise bien au-delà des frontières, comme nous l'explique le manager d'artiste Christ Kisendo.
Dizzy Manjeku pour la musique congolaise, c'est une passerelle, parce que il a aidé à connecter des artistes où la musique congolaise, la rumba, à d'autres styles, ou le Congo, à d'autres pays. Je vais parler de son projet des palenqués, Amatongé Palenqué, c'est des quartiers en Colombie qui va les relier musicalement à Matongé, donc Matongé Bruxelles, Matongé Kinshasa aussi. Il mixait les deux styles de musique, rumba de l'Amérique latine et de la rumba congolaise. Dizzy Manjeku, il est vraiment rentré dans l'histoire. Il a travaillé avec trois grands artistes congolais, notamment Verkis Kiamwangana. Il a travaillé avec Franco Luombo, il a travaillé avec Taboulay. Et aujourd'hui, il travaille avec tous les jeunes, il travaille avec Stromae. Il a participé dans des compositions, que ce soit pour les textes ou même dans la guitare. Du coup, il est vraiment une référence.
Christ Kisendo qui nous parlait donc de Dizzy Manjeku, qui sera en concert ce soir à l'Institut français de Kinshasa. En attendant, notre matinale continue avec Julien Coquel-Rohem.